Chapitre 21. La neige tombait dru lorsque les villageois commencèrent à se diriger vers l'église de Lens à la Joie en cette veille de Noël. Certains y allaient à pied, d'autres en carriole. Les chansons de la chorale du village s'entendaient chaque fois que les portes doubles s'ouvraient. De gros flocons virevoltaient dans le ciel et la température légèrement en dessous de zéro était inhabituellement douce pour un 24 décembre. Jean-Julien et ses invités arrivèrent parmi les derniers fidèles, et lorsque Sylvestre et Clémence posèrent le pied sur le parvis, un court silence s'installa dans les groupes qui patientaient pour entrer. La jeune femme, heureuse de revoir des amis et la parenté, marchait de gauche à droite en ignorant intentionnellement le trouble de plusieurs à qui elle présentait son amoureux. « Ils vont finir par s'habituer », tentait de se convaincre la jeune femme en souriant timidement. Dans son long manteau de laine noire ceinturé de cuir avec son beau chapeau rouge en feutre, Clémence dominait la plupart des autres femmes. Autant par sa prestance que par sa parure, la jeune femme ressemblait de plus en plus à une citadine. Au bout d'un moment, quand elle sentit le bras de Sylvestre se tendre sous sa main gantée, elle tourna la tête vers lui. « Ça va ?» Il ne répondit pas, se contentant d'acquiescer. L'homme resta tout de même en retrait et évita de fixer qui que ce soit. Toutefois, après un premier instant de surprise devant le prétendant de la jeune Gérard, la plupart des villageois se remirent à jaser entre eux, et Sylvestre se prit à respirer un peu mieux. Il fut encore plus soulagé lorsque l'arrivée de Freddy et Madeleine fit parler plus que la leur. Sautant de la carriole pour aller aider son épouse, l'homme savait qu'il avait fière allure. Et traînant pour la première fois son beau chapeau de feutre noir, il releva ses épaules et mima un petit geste pour tenir le côté de son chapeau afin de saluer les autres villageois. « Aïe aïe !» s'écria Mathias en s'avançant près de lui. « T'as toute une tuque, Freddy? J'ai jamais vu quelque chose de même sur un pêcheur. » « Il a raison !» rigola Tibouk. « On dirait une vedette !» Ne sachant trop comment réagir face à ces remarques, Freddy les ignora. Il empoigna les deux mains de Madeleine pour l'aider à descendre de la carriole. La jeune mère posa le pied par terre et s'emmitoufla confortablement avant de suivre son mari jusqu'au parvis de l'église. Arthur était resté au chaud avec son arrière-grand-mère. « Je peux prier le bon Dieu dans le confort de notre maison », avait clamé Palmyre, qui n'avait plus l'énergie pour se rendre à l'église à une heure aussi tardive. Elle en profiterait pour sommeiller un peu avant le retour du couple. Même si le réveillon s'annonçait moins jovial que les années précédentes, Palmyre savait bien que la danse et les chants les mèneraient jusqu'aux petites heures du matin. Madeleine ne put s'empêcher de vérifier si sa jumelle était arrivée, dès qu'elle mit les pieds sur les marches déneigées par le bedeau durant la journée. Elle savait bien que Simone ne l'attendrait pas comme autrefois, mais malgré tout, la jolie brunette ressentit une profonde tristesse. Il y avait plus de 6 mois qu'Éloi était décédé. Et si sa vie avait repris un cours plus normal, il n'en demeurait pas moins que la perte de sa sœur la minait toujours autant. Quand elle ne la voyait pas, Madeleine réussissait à oublier la douleur. Mais lorsqu'elle anticipait une rencontre, son être basculait entre l'espoir et le désespoir. Sa longue tresse se balança sur le devant de son manteau quand elle avança rapidement vers Clémence. La nouvelle venue fit la bise à sa cadette, en jetant un regard discret au petit groupe de villageois autour d'elle. « Tom et Simone sont arrivés ?» murmura-t-elle en hésitant un peu. « Oui, ils sont déjà dans l'église », répondit Clémence sans oser regarder sa sœur directement. « Ah !» Une dizaine de minutes plus tôt, Simone et Tom s'étaient empressés de passer les portes sans prendre le temps de jaser avec les autres villageois. Pas question de traîner dehors et ainsi risquer de côtoyer Madeleine. « Viens, on va s'asseoir là-bas », avait dit Tom en dirigeant son père et Simone le plus loin possible de leur banc habituel, derrière celui de Madeleine. Simone avait laissé ses filles aux bons soins de Joséphine, la sage-femme, qui lui avait dit en riant « Ça me fait bien trop plaisir d'avoir une raison pour pas aller me faire sermonner. Certainement que je vais prendre soin de tes filles le temps que vous alliez à l'église. Mais t'oublieras pas d'aviser le curé. J'ai pas envie de me faire reprocher mon absence pour les 6 mois à venir. » Après la mort d'Éloi, le couple endeuillé avait évité de se rendre à la messe au même moment que Freddy et Madeleine, se soustrayant ainsi à de malencontreuses rencontres. Depuis les funérailles, c'était donc la première fois que tous se retrouveraient dans l'église blanche en même temps. Simone tenta de calmer les battements de son cœur. La femme tressaillait chaque fois qu'un groupe de citoyens s'avançait dans la large allée centrale. « Ça va ?» souffla Horace en constatant que les mains de sa bru se crispaient sur le banc devant eux. Simone acquiesça sans regarder son beau-père. Tout comme son époux, elle était ambivalente face au rôle qu'avait joué le Seigneur dans leur épreuve de l'année qui se terminait. Si Dieu était si bon, comment se faisait-il qu'il eût laissé Éloi se noyer alors que ce n'était qu'un enfant innocent? Se questionnaient les parents, chacun de leur côté. Tom fréquentait l'église à contre-cœur et à quelques occasions, il avait même omis de s'y rendre le dimanche. À l'extérieur, Madeleine respira plus aisément en sachant que les risques de se retrouver face à Simone et Tom étaient inexistants pour l'instant. Elle avait craint ce moment toute la journée. Palmyre avait bien senti son inconfort lorsque la jeune mère avait suggéré à sa grand-mère d'accompagner Freddy à l'église à sa place. « Je peux bien rester avec Arthur ce soir. J'irai l'année prochaine à la messe de minuit », avait proposé Madeleine sur un ton désinvolte qui n'avait pas trompé l'aïeul. Palmyre n'avait pas accepté la proposition, et c'est le cœur pris dans un étau que Madeleine avait enfilé ses beaux vêtements pour grimper dans la carriole. Moins troublé à l'idée de cette rencontre, Freddy se pavanait sur le parvis en remerciant secrètement le ciel de ne pas être tombé sur une de ces soirées glaciales que le Québec vivait souvent en hiver. Il pouvait porter son beau chapeau sans que ses oreilles et son cou virent cramoisi. Le jeune homme profita donc des dernières minutes avant le début de la messe pour pavoiser d'un groupe à l'autre. « On va rentrer, nous autres », annonça Clémence en se penchant vers sa sœur. « J'ai les pieds gelés. » Madeleine baissa les yeux sur les délicates bottines de cuir de sa cadette, puis sur ses propres bottes doublées de fourrure avant de hocher la tête. Quand Clémence et Sylvestre s'avancèrent à leur tour dans l'allée centrale, Horace les suivit des yeux avant de se pencher vers son fils. « Une drôle d'idée qu'elle a eue, ta belle-sœur, quand même », marmonna-t-il d'un ton bourru. « Hein ?» Tom, perdu dans ses pensées, suivit le regard de son père. Quand il remarqua le grand noir qui se tenait quelques pas derrière Clémence, le corps bien raide. De dos, ses cheveux crépus ne laissaient planer aucun doute sur ses origines, et les villageois ne se gênaient pas pour le dévisager. « Hum, c'est son affaire », répliqua sèchement Tom à son père, qui fit une moue désapprobatrice. « C'est quand même pas une bonne idée d'amener du monde de même dans notre village », insista Horace, en croisant les bras sur son large poitrail pour bien montrer son mécontentement. « Il vaut toujours mieux rester entre nous autres ». Comme son fils ne faisait pas mine de vouloir poursuivre dans la même veine, Horace redirigea son regard vers l'avant de l'église. « Il saura bien me le dire, l'avenir me donnera raison », songea-t-il le visage sombre. À ses côtés, Simone gardait les yeux fermés pour éviter tout contact visuel avec sa jumelle. La jeune femme essayait de faire le vide dans son esprit pour accueillir la bonne parole. Pourtant, le corps tendu par l'angoisse de se trouver sous le même toit que Madeleine, sa sœur serrait frénétiquement le bas de sa jupe dans ses mains. Tom, stoïque, lui jeta un coup d'œil de côté avant de reporter son attention sur l'énorme Christ devant l'autel. Il abaissa les paupières pour se soustraire à son tour au bruit et aux murmures. Le son de l'orgue et des chœurs créait une atmosphère féerique, et les villageois baissaient le ton dès qu'ils mettaient les pieds dans l'église. Les regards en direction de Sylvestre étaient furtifs, mais sur certains visages, la répréhension était évidente. D'autres fidèles observaient le couple dans l'allée avec curiosité. Les enfants se poussaient du coude en ricanant devant cet homme différent. Heureusement, personne n'osa exprimer sa désapprobation de vive voix. Une sensation d'oppression au fond de la poitrine, Sylvestre se demanda comment il ferait pour demeurer 5 jours dans un endroit où on scrutait tous ses faits et gestes. Un coup d'œil sur Clémence, qui lui fit un sourire radieux, lui permit de comprendre que son amoureuse ne réalisait pas l'ampleur du malaise qui se répandait autour d'eux. « Viens, on va s'asseoir ici, Sylvestre », murmura-t-elle. Clémence passa son bras sous celui de son amoureux et avança pour se glisser sur un banc près de la famille de Noé Lévesque, le garagiste. « Bonsoir, Madame Lévesque, vous allez bien ?» chuchota gentiment Clémence en déposant son sac à main à côté d'elle. « Oui, et toi ?» répondit froidement Gilberte, la femme de Noé. « Très bien, merci. » Clémence recula un peu son buste pour que le couple puisse voir son amoureux. Elle poursuivit avec bonne humeur. « Je voudrais vous présenter mon ami Sylvestre Ball. » Mais Gilberte Lévesque leur tourna le dos, clairement non intéressée par la présentation. Clémence fronça les sourcils et pour la première fois depuis son entrée dans l'église, elle regarda autour d'elle. Elle s'aperçut en rougissant que plusieurs hommes et femmes les dévisageaient avec insistance. Mal à l'aise, la femme lissa sa belle robe de velours verte pour se donner une contenance. Fière de son amour pour Sylvestre, elle voulut prendre sa main, mais quand l'homme la retira sèchement, elle comprit que leur route ne serait pas aussi simple qu'elle l'espérait. Les larmes aux yeux, Clémence se tourna vers l'homme qui regardait stoïquement vers l'avant de la nef, son menton crispé par l'humiliation. « Sylvestre », souffla la jeune femme. Le curé Mathieu, qui arrivait de l'arrière en portant en procession l'enfant Jésus, interrompit son murmure. L'homme maigre plissa le front en remarquant le compagnon de Clémence, et ses lèvres se pincèrent avec sévérité. Poursuivant son avancée, il déposa la statuette de cire dans la crèche préparée auparavant par le bedeau, avant de se retourner vers les fidèles. Dans l'église remplie au maximum de sa capacité, la messe de minuit pouvait commencer. Les trois sœurs Gérard, chacune à leur façon, se demandaient comment passer à travers cette obligation sans devenir la cible de toutes les discussions du village. Pendant la première messe, Madeleine mit tout en œuvre pour garder une attitude discrète. Son jeune époux, qui avait enlevé son couvre-chef avant d'entrer dans l'église, le tenait contre sa cuisse. Il regrettait d'avoir à se dénuder la tête ainsi, mais jamais l'idée d'agir autrement ne lui était passée par l'esprit. « Tant pis, je le remettrai dès qu'on sortira. » Tout à sa vanité, il n'avait guère songé à la proximité qu'il vivrait forcément avec Simone et Tom. Il s'était bien aperçu que le couple avait évité de les saluer lorsqu'ils étaient passés dans l'allée centrale. C'est d'une voix choquée qu'il avait marmonné à l'oreille de Madeleine. « Me semble qu'ils exagèrent. On est rendu à Noël quand même. » Sa femme n'avait pas répondu, se contentant de lui jeter un regard furieux. « Tais-toi !» avait-elle envie de crier à Freddy. Le recueillement était à l'honneur dans la petite église surchauffée. Certains hommes retenaient des soupirs de lassitude alors que les femmes gardaient les yeux fixés sur le curé Mathieu, qui se tenait bien droit sous la nef. Les cierges allumés et l'odeur d'encens ajoutaient à la magie de l'instant, surtout pour les enfants assez vieux qui participaient à la messe. L'homme sec qui prêchait avec sévérité avait les yeux à demi fermés. Il célébra d'abord la grand-messe, suivie d'un chant de Noël bien apprécié de tous, « Les anges dans nos campagnes ». En chœur, les hommes et les femmes prirent plaisir à accompagner le maître chantre d'une voix forte. « Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants ?» Sylvestre retint un sourire devant les voix plus ou moins mélodieuses des villageois enjoués. Il regarda Clémence du coin de l'œil et fut soulagé de constater qu'elle semblait avoir oublié l'affront qu'elle avait subi un peu plus tôt. Le couple prévoyait une remarque désobligeante de la part du curé à la fin de la messe. Mais en attendant, malgré sa gêne, l'homme joignit tout de même sa voix à celle des autres gens et garda ses yeux fixés sur l'immense croix pour éviter de croiser le regard de qui que ce soit. C'est le cœur plus allégé que Madeleine et Simone, chacune de son côté, sentirent la fin de cette épreuve se profiler à l'horizon. Le curé Mathieu leva le calice haut vers le plafond en prononçant une prière en latin. Les quelques adolescents présents dans l'église ricanèrent avant de recevoir une taloche de leurs parents. Ces jeunes n'avaient qu'une seule hâte, retourner festoyer au sein de leur maison. Une fois la communion complétée et au moment où les fidèles tentaient discrètement de remettre leur manteau, le curé Mathieu annonça « Avant de nous quitter, mes chers concitoyens, prions ensemble pour nos disparus de l'année 1934. Que Dieu ait leur âme et les protège pour l'éternité. » L'homme étira son bras pour agripper une feuille posée sur l'autel et commença à la lire sur un ton neutre. Tendue, Madeleine eut l'impression de vivre un cauchemar lorsqu'il se mit à énumérer le nom des quelques villageois décédés au courant des 12 derniers mois. « Voyons donc, » murmura Freddy, « il n'a jamais fait ça. » Gêné, il baissa la tête et fixa son chapeau noir sur ses genoux. Plusieurs bancs derrière eux, Simone et Tom voulurent quitter l'église en vitesse. Ils prirent leurs manteaux et leurs chapeaux sans attendre et se relevèrent. Mais ils ne furent pas assez rapides pour sortir avant l'inévitable. « Éloi la Violette, 4 ans !» énonça le curé sans émotion. Dans l'église, il n'y eut plus un son. Les habitants, qui attendaient avec impatience le moment de retourner chez eux, s'enfoncèrent un peu plus dans leur banc. Un malaise palpable avait envahi l'espace. Puis une plainte lancinante déchira les lieux. « Oh! » suivirent des sanglots qui fendirent le cœur de tous. Les hommes et les femmes dirigèrent leur regard attristé vers Simone, qui avait plongé son visage ravagé dans ses mains gantées. Elle pleurait sans pouvoir s'arrêter, et le curé Mathieu, perdu dans son énumération, cessa de lire. Il fronça ses sourcils en broussaille devant le dérangement. Embêté et ne sachant comment réagir, il fit un geste du bras pour que quelqu'un fasse taire l'importune. Tom, figé aux côtés de son épouse, avait pâli, comme un spectre, et quand il remarqua le curé qui s'approchait, il voulut se lever, mais Simone résista, écrasée de douleur. La femme pleurait sans retenue, et la pitié se lisait dans tous les yeux posés sur elle. Plus loin, à l'avant, Madeleine avait un teint cireux. Sa mâchoire était crispée comme un étau, et elle se retenait de boucher ses oreilles pour éviter d'entendre les plaintes de sa sœur. Une douleur dont elle était seule responsable. Plus de 6 mois après la noyade de son neveu, ses gémissements lui rappelaient que jamais plus Simone ne serait en paix. Ce fut la voix du curé Mathieu, fracassant l'espace, qui mit fin à la crise de larmes de la mère éprouvée. « Voyons, je vous en prie, Madame la Violette, un peu de retenue, vous êtes dans la maison de Dieu, je vous le rappelle. N'oublions pas que votre fils se trouve maintenant près du Seigneur. » C'est seulement à ce moment que Simone réalisa l'ampleur de sa réaction et le malaise des nombreux villageois qui n'osaient plus bouger de leur banc. Le curé Mathieu était retourné vers l'avant et il jeta un coup d'œil à sa liste de noms. Il lui restait encore 2 défunts à nommer, mais il choisit plutôt d'inciter l'organiste à entamer le chant final d'un haussement de sourcils insistant. À 5:00, alors que les villageois sortaient finalement sur le parvis, les paroles du minuit chrétien résonnèrent, chantées de belle façon par le maître chantre. À n'en pas douter, les 3 sœurs Gérard se rappelleraient longtemps cette messe de Noël 1934. La seule bonne nouvelle de cette soirée fut la possibilité pour Clémence de s'éclipser sans être confrontée par le curé, qui maugréait près de l'autel. « Viens, » pressa-t-elle en tirant le manteau de Sylvestre. À la sortie de l'église, ce fut le départ pour les maisons dans un tintamarre de grelots énergiques. Les cris de joie éclataient de partout et l'excitation des villageois était à son comble. L'épisode dans l'église reviendrait assurément autour des tables pendant le réveillon, mais pour le moment, les habitants de Lens-à-la-Joie avaient envie de célébrer. Attristé par la fin de cette soirée, Freddy tenta de réconforter sa femme dans la carriole. Madeleine n'avait pas dit un mot depuis que sa sœur s'était écroulée de tristesse, et sous la belle lune ronde, son mari voyait ses yeux trop brillants qui lui faisaient craindre un réveillon gâché. Il tapota son genou caché sous la grosse peau d'ours avant de faire avancer son cheval Tonnerre. « Va-tu être correct, Mali ?» s'enquit-il avec affection. La femme hocha sa tête recouverte de son capuchon brun. Elle mentait, mais savait à quel point son mari avait besoin de croire que tout irait bien. Et du coin de l'œil, elle constata que la tension se relâcha aussitôt dans les mains qui tenaient les rênes du cheval. La voix de Freddy se fit plus légère quand la carriole s'engagea dans le chemin derrière plusieurs autres. « Ton oncle, ta sœur Clémence et son ami viennent toujours nous rejoindre à la maison? » « Oui. Au moins, on n'a pas eu à les embarquer. » murmura Freddy en saluant la famille Taillefer qui les dépassait par la droite pour se diriger vers la côte du Sureau. Perdue dans ses pensées, Madeleine ne réagit pas à ce curieux commentaire. Son époux haussa les épaules devant son mutisme et demanda « Pourquoi il s'en venait pas tout de suite d'abord? J'ai hâte de manger, moi? » Madeleine lui jeta un regard hagard en rejouant en boucle dans sa tête les images des derniers moments passés dans l'église. Elle baissa ses paupières pour tenter de reprendre le contrôle de ses émotions et murmura « J'imagine qu'elle voulait consoler Simone. » Freddy tourna sa tête vers la gauche et grimaça un peu. Il donnerait cher pour que tout redevienne comme avant. J'espère qu'ils vont se dépêcher quand même. En même temps, je peux pas te dire que je suis emballée à l'idée d'accueillir le compagnon de Clémence chez nous. C'est juste pour une soirée, on va pas mourir, chuchota Madeleine en levant une main pour caresser le bras de son mari. Freddy acquiesça et s'empressa de faire claquer les rênes sur le dos de Tonnerre. Comme Madeleine l'avait mentionné à la sortie de l'église, Clémence demanda à Sylvestre et à Jean-Julien de patienter quelques minutes. « Je veux m'assurer que Simone est correcte, » dit-elle, en se pressant vers son aîné. « Simone, attends, Simone » cria-t-elle, sans se préoccuper de regards curieux. Clémence courut vers sa sœur, son mari et Horace, son long manteau l'empêtrant, gênant ses gestes. Elle regrettait son choix de bottes depuis son départ de chez Jean-Julien. Voulant paraître plus distinguée, elle avait coquettement enfilé ses bottillons de cuir brun lacés jusqu'à la mi-mollet. Mais s'ils étaient bien jolis, ceux-ci ne procuraient pas le confort d'une bonne botte doublée de fourrure. Arrivée devant sa sœur, Clémence l'enlaça affectueusement, le cœur noué devant sa détresse encore bien évidente. Son teint chiffonné et ses yeux boursouflés n'auguraient pas un réveillon enjoué. « Je suis désolée, ma Simone, » chuchota Clémence à l'oreille de son aînée. « Veux-tu que je vienne chez vous? » Simone tenta un piètre sourire et secoua la tête. Tom se tenait droit comme un i et ne voulait pas replonger dans la rage qui l'avait envahi toute l'année. Le couple endeuillé s'était rapproché au cours des dernières semaines et il s'était promis de tenter de repousser la colère pour se rappeler les beaux moments passés avec Éloi. Mais en cet instant, quand il songeait à la joie du gamin l'année précédente, en découvrant le beau voilier que son père lui avait fabriqué pour Noël, Tom avait lui aussi envie de se mettre à pleurer. Pourtant, il redressa ses épaules et ancra ses pieds dans la neige pour trouver la force de soutenir la mère de ses enfants. « Non, » répondit finalement Simone en flattant de la main la joue de sa jeune sœur. « On va se coucher tôt. Venez dîner demain comme prévu. T'es certaine, hein? Je pourrais aller plus tard chez... » Simone posa un doigt ganté sur la bouche de sa cadette, avant qu'elle ne prononce le nom de sa jumelle. Elle secoua doucement sa tête et laissa ses yeux fixer l'horizon, où on devinait l'immensité de la mer. « Je suis épuisée, Clémence. Je vais aller dormir. » Sans plus attendre, la femme se remit en marche et salua sa sœur, qui se décala sur le côté du chemin, le cœur lourd. Piteuse, elle rejoignit Sylvestre et son oncle, qui jasaient à l'écart des derniers villageois, profitant de la clarté de la lune pour discuter avant d'aller réveillonner. Jean-Julien fut soulagé de la voir revenir vers eux. Sans qu'ils comprennent pourquoi, Sylvestre Ballant le rendait mal à l'aise. Et ce n'était pas seulement une question d'origine ethnique, il en était fort conscient. Et il s'avança donc pour prendre sa nièce par le bras. « Simone va être correcte? »« J'imagine, » répondit tristement Clémence. « Ah, mon oncle, ça me fait tellement de peine de voir mes deux sœurs comme ça. Je sais, ma fille, je sais. Tu penses qu'un jour Simone va pardonner à Maddie? Je l'espère, Clémence. » Mais l'air dubitatif de Jean-Julien démontrait son scepticisme face à une telle possibilité. Sans plus parler, le trio commença à marcher dans la nuit, les pas de chacun faisant crisser la neige sous leurs pieds.